الحمد لله وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dieu dit dans le Saint-Coran à son messager bien-aimé, détourne-toi des ignorants. D'un air de dire, « Ya Muhammad » et à travers le prophète, alayhi salam, tout musulman qui croit en Dieu et en son prophète et qui doit le prendre comme modèle et exemple. « Détourne-toi des ignorants. Ne tombe pas dans le piège des ignorants qui vont te pousser à perdre la raison si bien que tu vas avoir des actes, tu vas tenir des propos et tu vas agir de manière tout à fait désobligeante. Ça va déplaire à Dieu. Le croyant doit rester ferme dans ses principes. Il ne doit pas être détourné de son éthique, il ne doit pas être détourné de son objectif, à cause de quoi ? Par qui ? Par des ignorants qui le poussent à bout, si bien qu'il perd la raison, et il devient, comme le dit une parole rapportée par l'imam Al-Ghazali dans son Ihya, le prophète Yahya, alayhi salam, a vu le diable dans ses rêves, et le diable lui a dit, je pousse les gens à se mettre en colère, et quand ils se mettent en colère, je joue avec eux comme un enfant joue avec une balle dans sa main. Oui, effectivement, la colère fait perdre la raison, si bien que on finit par quoi ? Par entrer en conflit de manière insensée avec qui ? Avec Dieu qui nous a donné des ordres, qui nous a dit de faire et de ne pas faire. Une fois la raison passée, on regrette. Mais les conséquences sont là et la facture, il faut la payer tôt ou tard. Cet impératif divin est fondamental. Ô croyants, ô musulmans, détourne-toi des ignorants, ne te laisse pas égarer par leurs propos, par la pression qu'ils vont faire sur toi. Est-ce que notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en pratique ce que Dieu lui a demandé ? Est-ce qu'effectivement, il a su garder ses distances avec les ignorants ? Nous avons plusieurs exemples dans sa biographie, dont celui-ci. En l'année 8 de l'Hégire, le prophète a dû repousser une attaque de deux grandes tribus arabes, les Hawazines et les Saqif, qui ont décidé d'en découdre une fois pour toutes avec l'islam et avec les musulmans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui vient de faire la conquête de la Mecque, va à la rencontre de ces criminels. Les ennemis sont venus, accompagnés de leurs épouses, accompagnés de leurs enfants, accompagnés de tous leurs biens. Pourquoi ? Pour qu'ils ne pensent pas une seconde à déserter. C'est-à-dire, on doit se battre et gagner, sinon on perd tout, quitte ou double. Ils l'ont joué à la roulette russe. Et ils étaient sûrs d'eux-mêmes, parce qu'ils étaient nombreux et ils ont été galvanisés par leurs dirigeants. Malheureusement pour eux, ils vont perdre la bataille de Hunayn, comme Dieu le dit dans la sourate At-Tawba. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. La bataille terminée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récupère tout ce butin. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas le mettre dans sa poche, dans son compte en banque, en Suisse ou au Luxembourg. Le prophète était un chef d'État qui gérait les biens de la communauté de la manière la plus juste. Et il a vécu toute sa vie dans l'indigence et la pauvreté. Non pas par manque de moyens, mais par choix éthique, moral et spirituel. Quand il avait, il donnait. Et quand il n'avait pas, il promettait de donner. Et dès qu'il avait, il rappelait la personne et il lui donnait ce dont elle avait besoin. C'est pour ça que les gens l'ont suivi et l'ont aimé. Après la bataille de Hunayn, le prophète distribue le butin. Il le distribue de quelle manière ? Comme Dieu le lui a indiqué. Il n'a pas donné une part de ce butin aux premiers convertis, aux compagnons qui ont de la bouteille, qui ont 10, 15, 20 ans d'islam, à ces compagnons qui se sont sacrifiés corps et âme. Écoutez bien, il va distribuer des millions et des millions d'euros aux convertis de la dernière minute, c'est-à-dire des gens qui l'ont combattu pendant 21 ans et qui, lors de la prise de la Mecque, se sont soumis à l'autorité prophétique, et certains se sont convertis hypocritement, vous entendez ? Et le prophète le savait très bien. Il va distribuer ses richesses aux convertis de la dernière minute, à ses ennemis de la veille et à certains qui ne sont même pas encore convertis, qui sont proches de la conversion, il ne leur manque plus qu'un pas. Et pour les aider à faire ce pas-là, le prophète va les enrichir en leur disant, écoutez, vous êtes bienvenus dans l'islam, car vous serez gagnants sur terre et dans l'au-delà. La preuve, regardez, je vous donne plus que ce que vous ne pouvez vous imaginer. Et il a donné, par exemple, à Safwan ibn Umayya, qu'il a combattu toute sa vie, plus de 1000 chameaux, c'est-à-dire des millions d'euros. Et ça va déplaire à certains musulmans. À certains musulmans qui n'ont pas assez de recul, à certains musulmans qui n'ont pas la confiance totale en Dieu et en son prophète, à certains musulmans qui sont dans les passions, qui sont dans la réaction. Et c'est toujours le même problème qui se répète. Quand on n'a pas été formé comme il se doit intellectuellement, spirituellement, automatiquement, en tant que musulmans, nous faisons des erreurs graves et les autres doivent payer à notre place. On fait payer la facture à qui ? Aux autres musulmans. Un musulman intervient. Zul Khuwaysira, Al-Hurqus ibn Zuhayr. Et il interpelle le prophète en ces termes. Ô Mohammed, sois juste. Ton partage là que tu es en train de faire, il est injuste. Comment se fait-il que tu donnes à ces gens-là et tu ne nous donnes pas à nous ? Pourquoi tu donnes aux ennemis de la veille ? Pourquoi tu donnes à des gens qui ne sont même pas musulmans ? Vous remarquerez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout pour gagner le cœur des gens et des non-musulmans. Il a dépensé des millions d'euros pour gagner le cœur d'une personne. Vous entendez ? Après, il y a des musulmans qui nous font des remarques. Ouais, vos activités, elles ne servent à rien. Vous invitez des non-musulmans, ça nous coûte de l'argent pour faire un repas. Mais si vous saviez combien le prophète a dépensé, il a dépensé des millions d'euros pour juste qu'un non-musulman ne soit plus ennemi. Juste pour qu'il ne soit plus ennemi, pour l'aider à passer de la posture d'ennemi envers l'islam à la posture de quoi ? De neutralité, même pas ami. Des millions d'euros il a dépensé le prophète, alayhi salam. Bah, regardez ce qui va se passer. Cet homme va manquer de respect au prophète, de politesse, et même, il faut être un hypocrite pour parler de cette manière, car c'est une insulte. Il a insulté le prophète d'être injuste, il a insulté le prophète d'être partial. « Ya Mohammed, sois juste, il veut donner des leçons aux messagers de Dieu, vous vous rendez compte ?» Et croyez-moi que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas été éduqué par Dieu, s'il n'avait pas en permanence le Coran à l'esprit, comme tout être humain, il aurait réagi. Il aurait réagi pour condamner cet homme. Vous savez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a géré la situation ? Comme Dieu l'a dit, wa'arid 'anil jahilin, ne tombe pas dans le piège des ignorants. Détourne-toi de leur bassesse. Ne te mets pas en colère lorsqu'ils t'agressent. Vous savez ce qu'il va lui dire ? Si moi, le messager de Dieu, je ne suis pas juste, qui d'autre sur terre peut prétendre à être juste ? Je ne peux être que juste car Dieu me suit. Si je me trompe, il me corrige. Mais ce n'est pas comme ça que vont réagir certains compagnons qui ont assisté à cette scène. Parmi eux, Khalid ibn al-Walid, qui par amour pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par manque de recul aussi, il a été victime de sa colère et il va réagir en disant « Ô messager de Dieu, donne-moi le feu vert pour lui trancher la gorge. » Donne-moi le feu vert. Cet homme mérite la mort. Ça ne peut être qu'un hypocrite, insolent en plus. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire oui, vas-y ? Non, le prophète n'aime même pas faire couler le sang. Vous savez ce qu'il va lui dire ? Laisse-le. Laisse-le, il ne mérite pas ça. C'est vrai que ce qu'il a dit, ça ne tient pas la route. C'est vrai que c'est une insulte. Et alors, on va le corriger, on va l'éduquer. Pourquoi vous voulez utiliser la violence pour régler les problèmes ? Pourquoi vous voulez tuer les gens ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ah, vous y trouvez un plaisir peut-être ? Oui, sans doute. Quand vous étiez jeune, vous avez tellement joué à GTA V qu'une fois adulte, ça ne vous dérange plus de tuer. Eh oui, vous le savez ça, vous ne le savez pas ? Ça fait partie des conséquences de ces jeux et de ces films dont on nous a gavés pendant notre jeunesse. La violence est devenue quelque chose de tout à fait normal et naturel, ça ne nous choque plus. Et c'est une stratégie satanique de certaines personnes qui, matin, midi et soir, nous mettent dans les chaînes de télévision que du sang et que des morts, si bien que ça devient banal. Tu es en train de regarder les infos, tu vois des têtes coupées, tu vois des gens qui meurent, et tu rigoles avec ton voisin, et tu manges avec sourire, avec plaisir. La mort, le sang, la terreur ne nous fait plus rien. On a été désensibilisés. Eh oui. Et vous allez voir les conséquences dans quelques années avec les générations à venir, qui à l'âge de 6 ans, 7 ans, ont tous un portable, un iPhone, ont tous accès à Internet, ou à l'âge de 6 ans, 8 ans, ils voient déjà ce qui les prépare à devenir des monstres, puisqu'ils n'auront plus de peur ni de sentiment vis-à-vis de quoi ? De ce qui devrait faire peur à un être humain normalement constitué. Qu'est-ce que vous pensez alors d'un enfant ? Très bien, Khalid réagit avec les sentiments. Khalid réagit avec la colère. Khalid réagit avec les nerfs, avec la haine. Est-ce que le prophète va laisser Khalid dans cet état ? Non, il va le rappeler à l'ordre. Ya Khalid, c'est pas comme ça qu'il faut parler et qu'il faut agir. Laissez-le. Par contre, je vous avertis, ohé musulman, vous savez, cet homme, il aura des rejetons. C'est-à-dire, par la suite, des gens viendront et penseront comme lui. Ils voudront et ils seront plus royalistes que le roi. Et oui, le zèle du néophyte, des gens récemment convertis qui pensent et qui croient qu'ils sont plus pieux que le prophète, plus savants que le prophète. Ils pensent et ils croient qu'ils connaissent et qu'ils défendent la religion mieux que le prophète. Ces gens-là ne manqueront pas de sincérité, ne manqueront pas de piété. Car le prophète les décrit en disant, ils prieront plus que l'un d'entre vous, mes chers compagnons. Ils jeûneront plus que l'un d'entre vous, mes chers compagnons. Ils liront le Coran plus que l'un d'entre vous. Mais leur lecture sera superficielle. Elle ne descendra pas, elle ne dépassera pas leur gosier. Ils sont dans l'extérieur. Ils sont dans la quantité, ils sont dans la forme. Ils ne sont pas dans le fond, ils ne sont pas dans la qualité, ils ne sont pas dans les objectifs nobles. C'est ça le poison de l'islam. Dès le premier siècle de l'islam, le premier siècle, cette secte a vu le jour. Des musulmans pratiquants, non, hyper pratiquants, qui vont devenir le cancer de la communauté et prendre les armes contre eux. La meilleure des générations, celle des compagnons du prophète. « Ya Ali, dit le prophète, ils te combattront et tu devras les combattre. » Pourquoi est-ce que Ali devra les combattre ? Non pas parce qu'ils avaient des idées différentes de celles du prophète ou des compagnons. La preuve, regardez, le prophète a dit non, ne le tuez pas. Laissez-le, il a dit n'importe quoi, il a dit quelque chose de faux. Non, on ne verse pas le sang parce qu'on est en désaccord intellectuellement parlant avec quelqu'un. Ya Ali, tu les combattras, tu sais pourquoi tu les combattras ? Parce qu'ils prendront les armes, parce qu'ils vont semer le trouble, parce qu'ils ne vont pas respecter la loi. Et Ali les a interpellés, les khawarij, les dissidents, en leur disant, écoutez, tant que vous priez à la mosquée, sans semer le trouble dans la mosquée, les mosquées vous sont ouvertes. Tant que vous participez avec nous à l'effort militaire, vous avez le droit à votre retraite et à votre pension. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, de pratiquer la religion comme vous voulez, mais à une condition. Vous avez intérêt d'être tolérant et d'accepter les autres qui ne pensent pas comme vous et qui ne pratiquent pas comme vous. Mais le jour où vous n'allez pas respecter la loi, l'ordre, moi, le calife, l'autorité politique, je devrais vous arrêter. Et c'est pour ça que Ali ibn Abi Talib les a combattus. Non pas à cause de leur égarement spirituel et intellectuel, mais à cause du trouble qu'ils ont semé dans la communauté. Ya Ali, tu les combattras. Et tu trouveras parmi eux un homme qui aura la tête rasée, qui aura un bras avec une excroissance de chair qui pendra comme le sein d'une femme. Et dans un autre hadith, ils seront décrits. Ils auront le crâne rasé, des grandes barbes, etc., etc. Le prophète les a décrits physiquement et psychologiquement. Et ces gens-là n'auront pas de scrupules à tuer les compagnons du prophète. Ali sera victime de leur fanatisme. Ali sera victime de leur aveuglement. En résumé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne tombait pas dans le piège des ignorants. Ne tombait pas dans le piège de ceux qui voulaient le pousser à bout pour le déstabiliser, pour qu'il commette des erreurs afin qu'il ne soit plus un modèle et un exemple. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé d'éduquer ses compagnons qui, Parfois, réagissez sous la passion et sous l'amour en leur disant « c'est pas comme ça qu'il faut faire, gardez la raison et allons devant, car nous avons un projet qui est non pas de donner la mort aux gens, mais de leur donner la vie. » Vous entendez ? Les sauver des flammes de l'enfer, quitte à leur donner des millions d'euros, quitte à faire des activités toutes les semaines qui vont nous coûter 1000, 3000 euros pour sortir les gens des ténèbres, pour sortir les gens de la psychose dans laquelle on les a enfermés, la peur de l'inconnu, la peur de l'islam, la peur du musulman. C'est pour ça, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Allah est bakfikoum, si vous voulez que l'islam avance, si vous voulez que notre société de demain soit une société où il y aura plus de paix, si vous voulez combattre la peur qu'il y a dans notre société, l'islamophobie qu'il y a dans notre société, il faut mettre la main à la poche. Quand je vous dis cotiser, quand je vous dis on est 400, on doit avoir 400 cotisants à 20 euros, 8000 euros, c'est pas parce que je veux mettre de l'argent dans ma poche. Vous savez pourquoi ? Si vous ne mettez pas de l'argent dans la poche des gens, si vous ne mettez pas de la nourriture dans le ventre des gens, si vous ne mettez pas de la paix et du sourire et de l'amour dans la tête et le cœur des gens, on va vers un conflit de civilisation. Ce conflit est le résultat de quoi ? D'une stratégie satanique de certaines personnes qui pensent et qui croient que les êtres humains ne peuvent pas vivre ensemble dans la différence et la divergence sous la coupole d'une loi où qui respectent les différences de chacun, mais c'est aussi dû à une communauté spectatrice, consommatrice, qui attend, je ne sais pas quoi, qui attend le déluge, hein, qui attend un tsunami, c'est ça. Attention, attention, c'est de pire en pire. Quand vous voyez qu'on a fait un numéro spécial pour prévenir les gens, ça s'appelle la balance, vous entendez ? On se croirait en 39-45. Allô, mon voisin, là, il est fudge, venez le prendre. Allô, mon voisin est musulman, je l'ai vu, il a quoi ? Il a une jlaba. Si, si, je l'ai vu dans son jardin, il est sorti en jlaba. C'est un islamiste, c'est terrible. Un numéro spécial pour avertir les gens des terroristes islamistes fondamentalistes. Et on les a décrits, les islamistes terroristes fondamentalistes. Ils sont allés jusqu'à dire, vous allez les reconnaître. David Vincent les a vus avec leurs doigts. Tu regardes sa barbe, tu mesures la longueur, tu regardes la jlaba qu'il a mis, tu regardes des comportements qui ont été définis par certains comme étant islamistes, intégristes, terroristes. On va où ? On va vers un mur. Tous, toute la société, hein. C'est pour ça qu'il faut casser ces murs de peur, ces murs de psychose, en nous éduquant nous-mêmes, en comprenant notre religion comme il se doit, mais surtout en faisant un effort vers les autres pour que les autres nous comprennent, pour que les autres nous découvrent. Demain après-midi à 14h, Inch'Allah, dans cette mosquée noble et bénite, la conférence habituelle pour les femmes, rien que pour les femmes, c'est-à-dire vos femmes, vos sœurs, vos mères, vos voisines, tout ce qui bouge comme femme, Allah ybarak fikoum, vous la ramenez à la mosquée. Demain après-midi à 14h entre femmes, nous avons parmi nous des responsables d'une mosquée de Belgique, de Bernissar, qui sont venus pour demander notre aide. Et il faut les aider, car nous sommes une communauté de l'entraide. Et une autre information ? Ben oui, je crois que c'est... Oui, alors pour les frères et les sœurs qui ont des ouvriers, hein, les entrepreneurs, etc., vous payez ce qu'on appelle la taxe d'apprentissage. Cette taxe d'apprentissage, vous n'avez pas le choix, elle sera prise automatiquement, votre comptable il va la déclarer, il va la virer. Il y a la possibilité de la donner au lycée que vous voulez. Et nous avons un lycée musulman dans le Nord qui s'appelle le lycée Averroès. Donc Allah ybarak fikoum, ça se fait maintenant, au mois de février, votre taxe d'apprentissage, vous l'envoyez au lycée Averroès pour pouvoir développer et soutenir l'enseignement privé musulman. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.